Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Ce soir, on parle d'un enjeu majeur pour le personnel de soutien scolaire et pour l'avenir de nos services publics, la privatisation et la sous-traitance. On nous dit souvent que c'est plus flexible, plus efficace, moins coûteux. Pourtant, le document adopté par la CSQ en 2021 démontre que ces pratiques affaiblissent les services plutôt que de les renforcer. Pour en discuter, je reçois Dominique Latouche, vice-président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, et Mine Nguyen, économiste à la CSQ. Merci d'être là, messieurs. Très heureux que vous soyez avec nous. Dominique, pourquoi c'est important d'en parler?
Éric, la privatisation, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais ce qu'on remarque dans les dernières années, là, c'est que ça s'accentue de façon très rapide. Et puis, de façon sournoise, par les stratégies du gouvernement aussi, par sa vision. Puis, ça a des impacts réels sur le personnel, ça a des impacts réels aux services à la population, puis sur la qualité des services aussi.
Donc, parce que, effectivement, quand on parle de privatisation, puis on parle de sous-traitance, de quoi parle-t-on exactement, Dominique, quand on parle de privatisation?
La privatisation, c'est quand l'État se dégage un peu de ses responsabilités, donc il donne ça à un tiers. La sous-traitance, c'est un petit peu différent, c'est quand il va confier une partie des tâches à un autre tiers. Donc, il délègue un peu les tâches qui étaient faites normalement par notre personnel. Dans nos conventions collectives, on va parler de travailleurs.
OK. Donc, par la suite, Dominique, est-ce qu'on a des chiffres par rapport à tout ça, de cette privatisation-là, cette sous-traitance-là?
Oui, chaque année, les organismes scolaires doivent donner des données PERCOS, ce qu'on appelle. C'est des données qui sont mises à jour, comme je le disais, chaque année. Et puis, on peut voir là, les chiffres. Donc, on a ce qu'on appelle des ETC, des équivalents à temps complet. Puis, on a le nombre d'individus. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande dissonance entre les deux. Là. Il y a une grosse différence entre les deux. Mais chaque année, on est capable de voir ces chiffres.
Donc, Dominique, si on donne un exemple, tu sais, tu as beau avoir 28 050 surveillants d'élèves, exemple, en termes d'individus individuellement, ça ne fait que 2 798, mettons, équivalent temps complet. Ça donne que 9 personnes sur 10 qui ne sont pas à temps plein, bien entendu. Là.
Exactement. Puis on a quelques chiffres, là, tu sais, équivalent à temps complet, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand on le ramène, Éric, là, on aurait 150 000 personnes dans le réseau, mais quand on le voit en équivalent temps complet, on tombe à 40 45 000. Des petits exemples là, qu'on a, un ébéniste, ben, il y en a 8. Il y en avait 8 en 2013-2014, ce qui n'est pas beaucoup. On en a déjà eu plus que ça. Maintenant, il n'en reste que 3. Les électriciens et les électriciennes, on est passé de 146 en 2013-2014 à 118. Pour des soudeurs, de 13 à 5, puis des tuyauteurs, de 129 à 124. Donc, il y a une diminution aussi des classes d'emploi qui sont données majoritairement au privé à contrat.
Puis en plus, ben, on voit aussi qu'il y a un nombre d'élèves qui a augmenté. Si on prend les chiffres de 2013-14, on était autour de 976 000 élèves. Donc, en 22-23, on est à 987 000, quasiment 988 000. Donc, souvent, sous prétexte que ça coûte moins cher ou que c'est plus efficace. C'est ce qu'ils disent. C'est le discours qu'on entend là, dans les réseaux. Là.
Quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est complètement différent. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré aussi, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais ça a des effets dommageables. C'est une fausse bonne idée, comme on pourrait dire.
Effectivement. Donc, la sous-traitance, on nous dit souvent que c'est plus efficace, plus flexible, moins coûteux. Mais est-ce vraiment le cas, Mine?
Ben, la réponse courte, c'est non. C'est vraiment pas... on ne sauve pas d'argent de ce côté. C'est évidemment une question des parties privées, donc les capitalistes qui offrent ce service-là, ils disent que ça va coûter moins cher. Par contre, quand on regarde ça ici, on peut regarder un paquet de secteurs, que ce soit une garde de sécurité dans les cégeps, qu'on regarde dans des gardes de sécurité en général. On peut regarder aussi les TI dans la fonction publique. On peut regarder plusieurs autres secteurs. Il me semble que c'est l'ensemble des secteurs. On se rend compte que sous-traiter, c'est toujours, au bout de la ligne, beaucoup plus cher que garder des employés pour compléter la tâche. Par contre, à court terme, si on regarde à court terme, souvent, ça va coûter moins cher. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les soumissionnaires vont faire? Ils veulent le contrat. Et comme ils veulent le contrat, ben, ils vont dire, Nous, on offre ce service-ci pour vraiment pas cher. Il offre le contrat. Et éventuellement, c'est le gouvernement étant le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le soumissionnaire qui est le moins cher. Mm. Une fois que c'est fait, il y a le contrat avec le sous-traitant. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite, le sous-traitant? Bien, il va augmenter les coûts tranquillement, pas vite. Il y a cette marge-là. Mais pourquoi il y a cette marge-là? Parce que ce serait vraiment beaucoup... ce serait du trouble, en fond, de changer de sous-contractant par la suite. Donc, le gouvernement est un peu pris avec. Mm-hmm. Fait qu'on voit ça, aller. C'est un phénomène qui est assez récurrent. J'ai fait les calculs pour les cégeps, les gardes de sécurité, sur une moyenne de 5 ans. En effet, dans toutes les cégeps, que j'ai regardés, on voyait que les gardes de sécurité gardaient, mettons, au début, ça coûtait moins cher par mètre carré. Pour protéger un mètre carré quelconque,
oui.
Maintenir sa sécurité. Mais au bout de la ligne, on voyait que les coûts augmentaient. Une fois que j'ai fait la moyenne par mètre carré sur 5 ans, là, on regarde normalement par mètre carré, on se rend compte que les gardes, ensuite, les cégeps, où ce que, la sous-traitance était majoritaire, ça coûtait 10,26 $ par mètre carré.
Oui.
Et puis, pour les cégeps qui gardaient genre, les gardes de sécurité, genre salariés, ça coûtait 9,99 $. Là, je peux vous dire, ça, c'est juste sur 5 ans. Si on regarde la tendance en tant que telle, la tendance pour les gardes de sécurité, bien, ça suit genre les salaires du secteur public. Alors que le secteur privé, ça monte beaucoup plus que l'inflation en tant que telle, mais vraiment beaucoup plus. Donc, je peux vous dire qu'au bout de la ligne, ça coûte vraiment plus cher sous-traiter. Un autre exemple, je parlais des TI tantôt, il y a plusieurs études qui ont été faites, 1 100 $ par jour. Si on sous-traite, et puis 426 $ par jour par employé, c'est 2,3 % 2,3 fois plus. C'est quand même, c'est significatif quand même. Là. Donc, on rajoute à ça aussi des coûts de gestion. On ajoute aussi le fait que des gens vont devoir gérer des contrats, des avocats, ainsi de suite. Tout ça, c'est pas calculé genre, dans le coût de la sous-traitance. Donc, il faut rajouter par-dessus ça toute la gestion de toutes ces opérations-là.
Mm-hmm.
Puis j'en rajoute encore. Mm-hmm. C'est comme si c'était pas assez. On sait qu'une des raisons pour lesquelles les parties privées genre, vont augmenter le coût, c'est qu'il y a beaucoup de roulement de personnel. On sait genre, que toutes les études le disent. Lorsqu'on est syndiqué, on a un milieu de travail syndiqué, le taux de roulement est beaucoup plus bas qu'un milieu de travail dans lequel le personnel n'est pas syndiqué. Mais le taux de roulement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que plus que le taux de roulement est élevé, plus que le taux de productivité baisse. C'est quoi la productivité? Donc? C'est avoir travaillé, c'est quoi avoir la plus-value? C'est quoi le profit qui est fait? Évidemment, dans le secteur public, on ne calcule pas ça comme ça, mais chaque heure travaillée produit quelque chose quand même. Maintenant, si un garde de sécurité doit montrer dans le beat, mettons, un autre de ces gardes de sécurité qui viennent de rentrer, pendant ce temps-là, c'est pas genre d'emploi genre pour lequel genre, il est payé normalement. Donc, il y a de la productivité qui baisse. Alors que si le taux de roulement est plus bas, bien, la personne va remplir ses fonctions. Donc, en ce sens-là, on se rend compte que pour toutes ces raisons-là, la sous-traitance coûte beaucoup plus cher que simplement garder des salariés qui sont payés par le service public.
Je dois ajouter que le taux de roulement, quand il est élevé dans le réseau scolaire, entre autres, ça crée de l'instabilité aussi auprès du service que tu as à offrir. Donc, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui se succèdent et qui font les tâches différemment, de façon différente. Donc, ça aussi, c'est pour le réseau scolaire.
J'ajouterais, Éric, aussi, il y a toute la dotation derrière. Oui. Donc, il y a tout, comme Mine disait, former les gens qui vont arriver. Donc, il y a une perte de productivité, mais il y a toute la dotation, les délais avant de trouver quelqu'un, avant de l'embaucher. Là, des fois, ça peut être très long.
Puis, dans le fond, là, dans le discours des gouvernements qui défendent la sous-traitance, il y a toujours la fameuse promesse des économies. Hein? Quand on s'en va en sous-traitance, on dit que on sauve des coûts. Et malheureusement, la population adhère parfois à ce, à ce principe-là qui, malheureusement, ne reflète pas la réalité sur le terrain, bien entendu. Et, Mine, par rapport à l'État, est-ce vrai que l'État s'appauvrit à chaque contrat signé?
Bien, réponse courte, encore une fois.
Oui.
C'est oui.
C'est d'accord.
Ben pourquoi oui? C'est parce qu'à force de confier au privé, l'État, ce qu'il fait, c'est qu'il perd son expertise. On sait, genre, que dans un milieu de travail, quand on produit quelque chose, on produit de la connaissance, on produit une activité, on développe une certaine expertise. Les travailleurs, travailleuses qui sont là, on développe quelque chose, ils mettent ça dans la mémoire collective, et puis ça fait partie de la culture. Ça développe la culture, ça développe la connaissance à l'intérieur des services en tant que tel. Si on donne cette tâche-là au privé, le Garda, ça reste Garda. Et puis, Garda, ils vont Garda ou bien dans, disons, n'importe quel service de TI, un sous-contractant TI, il va apprendre comment fonctionne le système, qui est le système informatique qui est à l'intérieur, qui permet de faire fonctionner la fonction publique. Et puis, par la suite, une fois que le contrat est fini, il part avec la connaissance. Et puis, dans l'État, il est pris avec ce manque de connaissances-là. En ce sens-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'État est dépendant de ces services-là. Si on dit que l'État est dépendant, bien, il s'appauvrit genre, en termes de connaissances, si. Donc, quand il confie dans ses tâches au privé, il perd cette expertise-là, comme je dis, il ne peut pas récupérer dans cette expertise-là. Ou bien, s'il récupère, ça va être avec peine et misère, mais la plupart du temps, s'il perd dans son sous-contractant, il va devoir recommencer à zéro, ce qui est un problème. Donc, plus que l'expertise quitte l'interne, plus qu'on est dépendant.
Oui.
Puis on voit ça genre dans un paquet de scénarios où il perd le contrôle, l'État perd le contrôle. Le cas du Saclic, là, ça a été tellement médiatisé. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'en parler plus que ça. C'est quoi, effectivement. Mais je pense qu'en même temps, je pense que ce qui est clair, c'est que l'État a perdu le contrôle. Ça. L'État a perdu tellement le contrôle qu'il n'y a plus personne qui savait qu'est-ce qui se passait. Évidemment, du côté du privé, ils savaient très bien qu'est-ce qui se passait, mais l'État n'avait aucune idée de ce qui se passait. Alors, c'est pas mal ça. Dans certains ministères, les fonctionnaires suivent les directives en des sous-traitants. Vous imaginez? C'est comme, ils embauchent tout le monde, ils embauchent des sous-contractants, puis c'est les sous-contractants qui donnent les ordres à des employés de l'État. On est rendu là.
Oui.
Ça fait aucun sens. En ce sens-là, l'État ne dirige plus. Il est en train de subir ici. Là. Autre chose, en termes d'efficacité dans le coût, parce que nous, des économistes, on aime ça, on parle de l'efficacité de coût. Pour avoir raison. Et puis, on sait que la SAC, la SAQ, a sous-traité l'entretien ménager en invoquant quatre objectifs. Premier objectif, c'est plus de transparence. Deux, meilleure qualité de service. Trois, centralisation de la gestion. Et quatre, la réduction de coûts. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que les coûts ont augmenté, genre de 1, plus vite que l'inflation. Les coûts ont augmenté plus vite que la superficie des succursales. Et puis, la croissance des dépenses a dépassé celle des autres masses salariales. Dans ce sens-là, la question, c'est est-ce qu'on fait des économies? Il me semble que la réponse à ça, c'est clairement, on ne fait pas d'économies.
C'est assez clair. Puis, écoutez, là, ce qui est important de retenir, une phrase que je trouve importante dans ton explication, c'est plus l'expertise quitte l'interne, plus l'État devient dépendant du privé. Et combien de fois qu'on l'a dit, Dominique, dans le réseau scolaire, quand les gens quittent et qu'on ne garde pas cette expertise-là, puis qu'on engage de la sous-traitance, ça ne reste pas à l'interne, donc ça ne profite pas à l'État, ça ne profite pas dans l'offre de services qu'on a à faire. Je pense que c'est comme ça au quotidien. Là.
Puis j'ai des exemples. Quand on a vécu des fois sur le terrain, je vais donner des exemples d'ouvriers certifiés d'entretien où on a eu à installer à un moment donné des tableaux interactifs.
Oui.
Ça prenait toujours quelqu'un de l'organisation qui allait d'abord dire c'est quel mur que tu dois percer, pour lequel tu dois installer,
oui.
Puis aller vérifier l'installation après.
effectivement.
Donc, il se déplaçait deux fois, puis le sous-contractant, lui, ben, il faisait un gros profit pour aller, des fois, on me disait, là, visser quatre listes.
Oui, en plein ça. L'exemple est excellent. Tu sais, quand on dit que l'État s'appauvrit à chaque contrat signé, tu sais, dans le fond, mine, donc, avec ce que tu nous donnes comme explication, le risque est clairement transféré au public, là.
Le risque est clairement transféré au public et aussi transféré aux travailleurs travailleuses.
Mm-hmm.
C'est le cas classique, parfois on dit ça. C'est quasiment cliché d'en dire ça, mais c'est vrai. C'est la privatisation du profit et puis c'est la socialisation en des coûts. C'est vraiment ça. Et puis le coût aussi transmis aux travailleurs travailleuses. La sous-traitance, en fond, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle renforce le capital privé puis elle s'attaque au travail.
Oui.
Tension entre capital et travail dans le cas d'une capitaliste. Et c'est pas mal ça, ça va dans le sens du capital. Donc, là, quand on a fait des rencontres avec les fédérations, on s'est rendu compte qu'il y a un accès maintenant inéquitable aux services professionnels de soutien. On se rend compte aussi qu'il y a des fragmentations de l'équipe école. On a aussi vu, Jean-Kien, il y a un manque de stabilité et de pérennité dans les services. Ça, c'est. J'invente pas ça, là. Ça, c'est toutes des choses qui ont été constatées sur le terrain. Une perte de cohérence dans l'accompagnement avec les élèves. Ça, c'est important. C'est les élèves qui en subissent aussi. Donc, là, je vous dis, ça s'attaque aux travailleurs, travailleuses, mais ça s'attaque aussi aux services en tant que tel. C'est qui, genre, qui subit dans les services? C'est qui a besoin des services? Bien, c'est les élèves. Et c'est eux autres qui subissent ces conséquences-là. Donc, là, je parlais tantôt, genre, du coup, genre, qui tombait, genre, sur les travailleurs, travailleuses. Bien, il y a des études qui demandent que la sous-traitance entraîne souvent une accentuation de la précarité. Mm-hmm. Donc, on a parlé tantôt, les équivalents temps plein, ça descend ici. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est une idée genre, d'avoir un emploi stable à temps plein, pouvoir se payer genre, ce qu'il faut aujourd'hui, avec, ça, dans le contexte où on est en ce moment, c'est particulièrement important. On sait que l'inflation est en hausse, on est dans le coût de la vie. Augmente alors que j'en ai salaire stagne, on a besoin d'un emploi à temps plein. Et puis se retrouver qu'un emploi précaire, un emploi à temps partiel non volontaire, c'est un problème et c'est une conséquence de la sous-traitance. Donc, je disais, notre perte d'heure ou de poste, une surcharge de travail. On a toujours besoin d'autant de productivité. Alors, pour me dire ainsi, on va essayer genre, de tirer plus de jus genre, de citron, on va presser le citron encore plus. Il y a une surcharge de travail, il y a une pression accrue en contexte de pénurie, parce que la pénurie de la main-d'œuvre, c'est bien, sauf si les médias en parlent souvent, et c'est vrai. Et puis, il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice qui circule chez les travailleurs, travailleuses, et c'est pas bon pour la santé mentale, ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été documentées. C'est universel. Là, on parle pas juste de nos comptes. Donc, consultation avec la fédération, ça semble être universel, ça semble être pas mal comme ça dans toutes les économies avancées.
Effectivement, et tout à l'heure, tu donnais ton exemple là, par rapport à la SAC, la SAQ, tu sais, dans ces quatre objectifs d'aller en sous-traitance. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on parle de transparence, comment veut-on aussi développer le fameux sentiment d'appartenance hein, que ces gens-là qui viennent s'investir à travailler une carrière en éducation, Peu importe le corps d'emploi, et puis on le voit sur le terrain. Hein. Autrefois, c'était concentré beaucoup en conciergerie, Dominique, hein, ou en restauration. La sous-traitance touche maintenant beaucoup, beaucoup de corps d'emploi du personnel de soutien scolaire. Et quand on remplace les postes stables par des contrats ponctuels hein, de la sous-traitance, c'est toute l'équipe école qui se fragilise clairement à travers tout ça. Qu'en penses-tu, toi, de ça, Dominique?
Bien. T'sais, les services publics, c'est notre filet social. Okay. Dans la pandémie, on l'a vu. Quand tu n'as pas de services publics forts, il arrive des catastrophes. Ce qui est clair aussi, Eric, c'est qu'il y a, au cours des années, moins de financement. Je vous donne un exemple. Là, le plan le plan québécois des infrastructures, le PQI, il n'attribue pas des sommes suffisantes pour être capable de faire les rénovations et de maintenir tes écoles dans un état de vétusté acceptable. On a quelques statistiques, là. En 2016-2017, on avait 66% qui étaient cotés vertes, donc dans le ABC, comme on dit.
Oui.
Ça, c'est la cotation. Je te ramène en 2025, on en a 47. Et ça, c'est les effets du sous-financement. Chaque fois que le ministère finance le PQI, il ne finance jamais de masse salariale. Donc, il ne finance pas des gens pour entretenir, pour faire l'entretien de nos bâtisses. Bien, cet argent-là, quand tu vas faire un contrat pour faire la rénovation de tes établissements, tes salles de bain, tes fenêtres, la couverture, bien, tu vas payer plus cher. Tu l'as vu là, comme moi, oui. Les matériaux tout augmenté.
Oui, tout augmenté.
Bien, si tu avais eu des gens à l'intérieur pour tout faire ces travaux-là, bien, au moins, tu aurais eu un contrôle sur ta masse salariale. C'est pas perdu. Aussi, quand on regarde l'écart entre le privé et le public, au niveau des concierges, bien, on a de plus en plus de concierges qui sont à contrat. La seule façon pour un entrepreneur de faire du profit, parce qu'il va faire une soumission en fonction du mètre carré, mais il l'a dit tantôt, bien, sa seule façon de faire du profit, c'est de réduire le temps de travail des travailleuses et des travailleurs. Parce que lui, il a un mètre carré, il doit arriver dans un certain avec ses produits, mais il doit se garder une marge parce que c'est ça son objectif,
ben oui. Tim,
de faire du profit. Donc, dans des écoles où on voyait là, 38 heures, 3 quarts, et des fois, il y avait 100 heures de ménage, il donne un contrat, on tombe à 80. Mm-hmm. Et tu rentres dans l'école, tu vois la différence.
Oui.
Tu le vois sur les planchers, tu le vois sur le sable, tu le vois dans la qualité des produits qui sont utilisés. Donc ça, ça fait partie de la problématique aussi.
La sous-traitance, mais... c'est un choix politique, souvent, c'est pas une fatalité.
Je pense qu'on peut, on peut cadrer ça dans le même, avec le néolibéralisme.
Ouais.
C'est un choix politique, c'est un choix idéologique. Mm-hmm. Ils ont décidé ça parce qu'ils pensaient, mais pas nécessairement qu'ils pensaient, qu'il y avait des intérêts derrière ça.
Ouais.
Et puis, ils disent aussi, les idéologues, tous ces technocrates et ces idéologues-là, ils disent, en fond, à partir de des idées genre, qui ont vraiment circulé dans les années 80, années 90, que la sous-traitance, ça va mener à la flexibilité, à des économies, à de l'efficacité, à de la transparence. Les trois premiers points, j'en ai parlé beaucoup depuis un moment. Quatrième point, excusez-moi, alors, la transparence, on va passer de ce côté-là. Pour quelqu'un, moi, dans mon travail, moi, je fais beaucoup de demandes d'accès à l'information. Alors, évidemment, quand je fais une demande d'accès à l'information sur les dépenses de l'établissement public ou d'un autre, je les ai. Par contre, en ce qui concerne les contrats privés, on va me dire secret commercial. Tu n'as pas le droit d'avoir ça. Donc, secret commercial, ça fait que je suis obligé de faire une gymnastique quelconque, j'ai tout de faire des règles de trois, et puis j'y arrive éventuellement. Mais c'est un estimé. Quand je vous dis combien que ça coûte un contrat, c'est pas parce que c'est transparent, c'est parce que ça prend quelqu'un comme moi pour faire des calculs, et puis même là, c'est désestimé. Donc, on passera là sur la transparence aussi. Ça veut dire, une fois que j'ai dit ça, non, on peut combattre ça. C'est un modèle qui s'est imposé depuis les années 90, mais il y a beaucoup d'endroits qui ont dit, non, ça suffit. Il y a le phénomène, en anglais, on appelle ça du offshoring, mais il y a aussi le phénomène du reshoring.
Maintenant,
on sait qu'à Baltimore, la ville de Baltimore avait décidé de sous-traiter là, complètement son service de le collect and leadership. Là, ils se sont rendus compte, à un moment donné, les véhicules deviennent de plus en plus vétustes, le travail est de plus en plus mal fait, la ville est de plus en plus insalubre. Ça suffit qu'on balance ça, on tasse ces contrats-là, puis on réembauche des gens. Ils se sont rendus compte, la ville est devenue plus propre, ça coûtait de moins en moins cher. C'est du reshoring.
Mm-hmm.
Donc, une fois que j'ai dit ça, rapatrier genre, l'expertise à l'interne, c'est faisable, c'est documenté, c'est souhaitable. Mm-hmm. On peut le faire. Dans un cas plus rapproché du nôtre, les administrateurs, comme l'Agence des douanes du Canada pour la protection des frontières américaines, a estimé économiser 27 millions de dollars en 2010 sur un budget de 400 millions en convertissant 200 contractuels privés en employés gouvernementaux. C'est pas rien, ça va plus. Hein. C'est quelque chose qu'on fait chez nous. Donc, c'est pas juste aux États-Unis, et puis c'est pas juste des services comme la collecte des déchets ou des déneigements. On est capable d'y aller, genre, avec des services comme le TI aussi. Donc, une fois que j'ai dit ça, on sait que chaque dollar dépensé en sous-traitance, c'est un dollar qui est perdu pour les services publics. En ce sens-là, je pense que militer pour abolir la sous-traitance et puis parler genre, de ça et puis amener genre, ces dossiers-là genre, aux décideurs pour leur dire « ça ne marche pas vos affaires, amener des chiffres, mais ça, c'est pas futile, c'est nécessaire. » C'est un combat qui est nécessaire pour nos services publics, pour les travailleurs, pour les travailleuses.
Effectivement, puis tu as raison, Mine. Puis on a des exemples de réussite chez nous quand même qu'on a vu en employant des gens. Je pense entre autres à l'école du millénaire Médéric Gravel au centre scolaire des Rimes du Saguenay. Dans le fond, là, un projet pilote de 400 000 $ ou des économies saluées grâce au travail du personnel de soutien scolaire, entre autres les ouvriers spécialisés, les électriciens, les plombiers, les ébénistes, ont tout refait l'intérieur de l'école. On allait même jusqu'à faire les meubles, les ébénistes, pour les classes de maternelle, pour le service de garde. Donc, tout le monde y a participé. Et l'avantage que ça avait, c'est que ça répondait clairement là, aux besoins des élèves. Donc, ces gens-là pouvaient adapter leur construction, adapter les meubles, etc., au service de qui, tu l'as dit tout à l'heure, des élèves, des étudiants, des jeunes adultes qui fréquentent nos écoles et tous les intervenants par rapport à ça. On a aussi un autre exemple, l'école du Boisé à Sept-Îles. Hein, mobilier en cercle pour enseigner à l'extérieur, 8 000 fait avec soin, avec des ébénistes de la commission scolaire, du centre de soins scolaires. Tu sais, ils ont l'amour de leur établissement, mais ils ont le sentiment d'appartenance, puis ils se réalisent, ces gens-là, dans ces projets-là, et ils en coûtent, effectivement, puis tu me l'as dit, beaucoup moins cher. Dans les différentes pistes d'action, quelles sont les plus grandes pistes proposées, Dominique, là, qui pourraient nous amener vers une grande amélioration par rapport à
ça? Éric, ça va être important qu'il y ait un changement de mentalité. Le gouvernement, là, il faut qu'il prenne la mesure de tout ça parce qu'on a fait partie de plusieurs comités de travail au fil des ans. Puis même, on a rencontré là, les directions d'établissement début d'année. Ils croient à la valeur ajoutée du personnel embauché, donc des gens à qui on confie une permanence, le sentiment d'appartenance, mais ils n'ont pas la marge de manœuvre présentement pour engager ces gens-là. Avec le gel de recrutement, c'est encore pire, mais dans les budgets, ils ne dégagent pas ces sommes-là. Donc, une campagne de valorisation, je pense que c'est le premier vecteur. Des outils de formation aussi pour nos syndicats, parce que notre convention collective, prévoit quand même là, des mécanismes de protection pour la sous-traitance. Notamment, là, si on prend la clause sur le travail à forfait, on vient dire là, que les parties reconnaissent l'importance d'étudier des alternatives favorisant la réduction du travail à forfait pour éviter le recours à la sous-traitance. Quand on a cette marge de manœuvre-là avec l'employeur, quand on est un syndicat capable de s'asseoir et discuter des vrais enjeux, puis de voir... là, où on peut apporter des solutions. L'autre bout, ben, c'est un comité permanent pour assurer une Vichy. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. La centrale et la fédération, au fil des congrès, on a pris des positions. On est contre la sous-traitance, on est pour l'accès à l'égalité des chances, on est pour l'accès aux services publics. Et tout ça, ben, ça ne se fait pas sans l'huile de coude. Là. Il faut s'allier avec des partis politiques. Il faut qu'il y ait un changement important au niveau du gouvernement. Il faut qu'il change sa mentalité.
Effectivement, puis avant d'y aller de la conclusion, je tiens sincèrement à vous dire merci Dominique. Je pense que en résumé, vous le voyez très clairement, la sous-traitance n'est pas une solution miracle, clairement. Elle coûte plus cher, elle réduit l'expertise interne, elle affaiblit la mission publique, elle précarise aussi le personnel, puis elle réduit la transparence. Ce débat, pour nous, à la Fédération du personnel de soutien scolaire et à la CSQ, est crucial en éducation, où le personnel de soutien joue un rôle essentiel auprès des élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Continuez la discussion dans les commentaires et partagez cette vidéo. Au plaisir d'une prochaine fois.